01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi, généralement à partir de 13h. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle d'Emmanuel Grivollet-Saunier.
Bonjour.
Votre carrière, hein, est partie, là.
Oui, j'espère, mais on verra bien, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que vous n'allez pas la défaire, ou bien la refaire. Serait...
Je vous présente Monique à la technique, bien sûr, sans qui rien n'est possible. Hein. Alors, on est là pour parler d'un livre aux éditions de l'Écarlate. L'édition Le Carman, c'est Jérôme Martin.
Oui, c'est Jérôme Martin. Et d'ailleurs, je voudrais lui souhaiter un bon anniversaire à Jérôme parce que
il fait 85 ans.
85 ans. Non, oui. Pas tout à fait moins. Moins. Oh, je suis pas bonne en maths. Mais quoi qu'il en soit, cette année, ce sont les 30 ans des éditions L'Écarlate. Alors, je voulais lui faire un petit signe et puis lui dire à quel point j'étais heureuse de faire partie de son catalogue.
Il fait un beau travail, surtout un très beau travail typographique. Il est très méticuleux, hein.
Très méticuleux. Alors. Et je lui dis souvent qu'il traite le papier et le livre comme de la peau, au fond. Et Jérôme, ses livres, ce sont des corps et les pages de ses livres, c'est de la peau.
C'était pas évident de faire un livre comme ça parce que c'est assez difficile. Il y a trois parties.
Oui.
Il y a trois parties bien distinctes, dont une partie photo qui est très bien réussie.
Merci.
Très très bien réussi. Non, mais là je parle pas de vous, hein. Je parle du travail de Jérôme Martin.
Ah
après,
oui, pardon.
Vous, on verra. Vous, c'est catastrophique. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Alors nous, on s'est rencontrés lors d'une exposition de photos, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'était donc à l'espace Beaujon, dans le 8e, où j'ai exposé mon travail photographique, qui fait partie.
Vous exposez encore ou vous avez exposé?
Ah, malheureusement, c'est terminé depuis la semaine dernière.
Depuis la semaine dernière, d'accord.
Et donc effectivement. Effectivement, ce travail photographique fait partie de mon livre, c'est la troisième partie. Et effectivement, Jérôme a fait un magnifique travail parce qu'il y a beaucoup de noir. Et donc, le noir, c'est pas toujours facile à traiter. Et dans mon livre, il y a... donc, la série s'appelle « Les Beaux Endormis ». C'est une série qui est publiée en noir et blanc dans le livre et l'exposition ce sont les versions couleurs donc qui sont exposées avec les noirs et blancs.
On va voir tout ça dans le détail, promis juré, sans aucun problème. Non, c'est alors on va dans le vif du sujet, mais avant, quand on s'est rencontrés, je vous ai dit que je voulais coupler l'émission avec James Sensor. Alors, notre ami Nicolas Eprand, qui est cinéaste et réalisateur, a réalisé il y a quelque temps un film sur un peintre complètement inconnu, un peintre très sage qui s'appelle Gaston Prunier. Et paradoxalement, un jour, il m'a téléphoné, très exalté, il me dit « il faut qu'on fasse une émission sur James Ensor ». Et James Ensor, c'est une chose qui m'est très cher pour sa vision des masques, pour sa vision de la comédie, pour sa vision de la mort. Et j'y avais dit oui. Et puis là, Monsieur Ensor, Nicolas ne peut pas être là, mais l'émission va être reportée. On fera ça un de ces jours comme ça. Ça vous inspirait pas, James Ensor? Pas du tout.
Alors, je ne connais pas très bien, pour être très honnête. Moi, j'ai plutôt été inspirée par Paul Delvaux.
Mmh. Là, c'est pas loin, oui, c'est bien.
Et suraliste belge, n'est-ce pas? Et un tableau qui s'appelle Le Dernier Wagon, sur lequel figure une femme nue dans un wagon, avec un tapis rouge qui est à ses pieds et qui,
Alors, en préparation, c'était avec James Ensor, j'ai retrouvé un de mes dadas dans ma bibliothèque. C'est tout fripé, c'est tout râpé, c'est tout jauni, car c'est pas republié. C'est un livre publié chez Segers il y a au moins une trentaine d'années qui s'intitule Les écrivains de l'avant-siècle, du Bergevin. C'est une mine de culture, une mine de référence par rapport à tous ces gens-là qui sont intéressés à la mort et aux masques. Voilà. Entre les années fin 1900, début 20e, dont un écrivain qui s'appelle Georges Rodenbach, qui a écrit Bruges la morte et qui est hanté par la mort, et c'est un sujet qui vous intéresserait énormément. Raison simple, il y a un grand paradoxe. Il y a trois parties dans votre livre. Il y a Coma, Un parfum dans la nuit et les beaux endormis qui est de la photo. Moi, j'ai lu ça avec grande attention, je tiens à vous le dire, vous n'allez pas m'échapper. Effectivement, le grand paradoxe, je ne vais pas dire la contradiction, j'ai dit le paradoxe, dans votre livre, c'est que effectivement, le premier titre, c'est « Coma ». C'est pas très gai, c'est le cas de le dire. Le deuxième commence par « L'homme dont j'évoque le souvenir dans le texte qui suit était impuissant. Une maladie et un ravage chez un homme dont l'être et la beauté physique étaient redoutables. » C'est pas très drôle non plus. Et on finit par « Les beaux endormis », c'est votre série photo. « J'ai photographié la mort et je l'ai regardée longuement jusqu'à l'aimer, jusqu'à la posséder, jusqu'à ne plus pouvoir m'en passer. » Et le paradoxe, c'est que dans votre d'un bout à l'autre de votre livre, c'est extrêmement séduisant.
Eh bien,
vous n'attendez pas à celle-là.
Non, mais ça me fait plaisir en même temps.
Voilà.
Je pense qu'il y a une fascination de la mort, quelque part. En tous les cas, une sorte de manière de la transcender. Alors, c'est forcément peut-être un peu pieux, mais quoi qu'il en soit, ma vie a été traversée par beaucoup de morts. Assez tôt en fait, et je pense que ce sont soit des morts, des disparus, des êtres qu'on a aimés qui ne sont plus, soit des êtres qu'on a perdus parce que la vie nous les a éloignés. Et effectivement, alors si je devais parler dans un premier temps de coma est partie d'un être que j'aimais, d'un homme que j'aimais et dont je m'éloignais et je dans cet éloignement, dans cette douleur, j'ai fui dans l'écriture et je me suis complètement laissé prendre par une sorte de fuite. J'écrivais jour et nuit, je transcendais cet événement.
Emmanuel, c'est pas parce que vous fuyez dans l'écriture que c'est forcément une écriture esthétique et belle. Ça aurait pu être des grognements, ça aurait pu être des choses comme ça.
Oui, c'est vrai. Après, alors j'ai un héritage. je cherche à embellir ce qui a priori n'est pas destiné à être beau. Et effectivement, c'est vrai que ça, c'est à travers l'écriture, il y a une sorte de plaisir à aller chercher de la lumière, même si l'obscurité est à la base de l'impulsion première. Alors c'est vrai que ça se traduit très bien dans mes photos parce que je pars de je vais un peu dans tous les sens. Et, pardonnez-moi, mais c'est vrai, j'ai parmi les êtres que j'ai perdus, je les ai photographiés. J'ai photographié leurs cadavres. J'ai photographié la mort. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose de très courant. Siècle dernier, beaucoup plus. Aujourd'hui,
ça existait.
Oui,
c'était même au siècle dernier. C'était même une coutume.
C'était même une coutume, exactement.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Oui, allez-y. Donc, maintenant avec le numérique, c'est vrai qu'on peut se cacher pour le faire, ou on peut le faire très librement. On peut le faire dans l'intimité de soi-même. On peut trouver un rapport aussi aux êtres morts. Bon, tout ça n'est pas d'une folle gaieté, effectivement, mais au vu de tout ça, je me suis pour le rendre pour que ça puisse être vu. Aujourd'hui, en tous les cas, j'ai créé cette série Les Beaux Endormis, qui est une sorte de transposition de ce que je faisais dans la vie réelle.
Vous êtes penché sur le coma pour écrire ça, ce qui se passe dans... le coma, c'est quoi? C'est entre la vie et la mort. C'est un peu pas terrible ce que je raconte, mais vous êtes penché dessus ou pas?
Écoutez, en fait, j'ai aimé un homme qui a vécu un coma profond, qui est l'homme dont je parle dans Un parfum dans la nuit. J'ai effectivement... à travers ce qu'il m'a raconté de cette expérience, le coma, on est complètement traversé par des choses. Il reste des images, des chocs, rêve.
Mais ça, vous le savez pas, ça.
J'ai mon coma éveillé.
C'est toute la clé de votre livre. C'est-à-dire, pour moi, c'est toute la clé du livre. Hein. Alors, je vais vous dire deux choses. Votre livre m'a évoqué une histoire que je connais depuis très très longtemps. C'est celle de Jean-Pierre Adams. Jean-Pierre Adams, c'était un footballeur qui était en équipe de France, qui arrête sa carrière en 1982. En 82, il devient entraîneur. Et là, il a un petit problème au genou complètement banal. Il va se faire opérer du genou. Là, la dame qui l'anesthésie, elle ne connaît pas très bien son métier. Il va se réveiller. On est en 82. Il va mourir en 2021, si je ne m'abuse, faites le calcul. Étant donné qu'il était d'origine sénégalaise et qu'il est très religieux, sa femme aussi très religieuse, elle va le maintenir chez elle pendant 40 ans dans le coma. Et après, je vous donne la parole, promis. Et je me disais, mais il y a de l'organique. Non, il n'y a pas que du beau. Vous, votre coma, il est beau et vous ne touchez pas à l'organique. Il pète, il chie, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte.
C'est vrai, le coma, pour moi, c'est... Alors, je reviendrai sur l'organique, mais le coma, c'est aussi le coma de la création. Je pense que dans mon livre, dans la pièce Coma, on a deux femmes qui communiquent entre elles et qui sont dans le coma. Mais en même temps, à l'intérieur de leur coma, il y a des écrivains, une écrivaine, qui va être comme on est dans un rêve finalement, tout est un peu disloqué, tout s'entrechoque, c'est une immense liberté que d'utiliser le coma comme on peut utiliser le rêve pour une narration. Alors là, effectivement, on est plutôt dans l'imaginaire, l'inconscient et pas forcément dans le corps. Moi, le corps, je l'ai plutôt exprimé dans, effectivement, Un parfum dans la nuit, qui est un texte aussi érotique. Et donc, je suis plus dans le charnel éveillé que le charnel endormi, même si la limite n'est peut-être pas très éloignée.
Ce qu'on va faire, avant de plonger dans ces comas avec un S, hein, oui. On va passer une chanson de Léo Ferré. On est en 1964. À l'Alhambra, qui est une salle populaire, oui, il met en musique un texte de Ronsard tiré des stances. Et là, c'est un texte où le Léros et Thanatos sont très liés. Et c'est un texte qui est aux limites de la nécrophilie, l'amour, et où l'organique, on est en plein dedans. Donc 64, il fallait le faire, hein, face à un public populaire, Léo Ferré et les stances.
Quand au temple nous serons agenouillés, nous ferons les dévots selon la guise de ceux qui, pour louer Dieu, humbles se courbent au lieu le plus secret de l'Église. Mais quand au lit nous serons entrelacés, nous ferons les lascifs selon les guises des amants qui librement pratiquent folâtrement dans les draps sans mignardise. Pourquoi donc, quand je vais mordre tes beaux cheveux, ou baiser ta bouche aimée, ou toucher à ton beau sein, contrefais-tu l'anonin de dans un cloître enfermé? Pour qui gardes-tu tes yeux, tes seins délicieux, ta joue et ta bouche belle? En veux-tu baiser Pluton là-bas, après que Caron t'aura mis en sa nacelle? Après ton dernier trépas, tu n'auras là-bas qu'une bouchette blêmie. Et quand mort je te verrai, aux ombres je n'avouerai que tu fus jadis ma mie. Ton test n'aura plus de peau, ton visage si beau n'aura veine ni artère. Tu n'auras plus que des dents telles qu'on les voit dedans les têtes des cimetières. Donc tandis que tu vis, change maîtresse d'avis et ne m'épargne ta bouche. Incontinent tu mourras, lors tu te repentiras de m'avoir été farouche.
Et oui, merci Monique, c'est super. Ils vont tous les deux vont très loin, d'ailleurs, Ferré avec sa voix et sa musique. Et puis là, on est, vous réécouterez chez vous, si vous pouvez le réécouter, on est vraiment dans un texte qui est aux limites de la nécrophilie et sur l'organique qui va très très loin. On est bien avec Emmanuel Grivelet-Saunier pour Coma avec un S, suivi d'Un parfum dans la nuit et Les beaux endormis aux éditions de l'Écarlate, et bon anniversaire à Jérôme, surtout.
Oui.
Le deuxième paradoxe dans votre livre, d'un bout à l'autre de votre livre d'ailleurs, c'est un usage poussé du langage. C'est-à-dire qu'il y a une certaine préciosité. Ça aurait pu être un langage comme ça, un peu... ça ne me gêne pas du tout, au contraire. C'est vrai, un langage un peu bâclé, un peu vite, un peu rapide. Mais là, je vais dire un thème qui ne va peut-être pas vous plaire, une forme de perversité en rajoutée dans le langage.
C'est les adjectifs qui vous ont...
Non, je vous le dis de vous-même. Alors, j'ai vous lire la première note que vous avez faite, pardon. Ah oui, tragiquement tragédienne. Donc ça veut dire qu'on en rajoute, là.
Il y a une sorte, de liberté à nouveau. J'écris, je ne me censure pas, je me lâche complètement. Je pense que c'est vraiment un endroit où on peut le faire. En tout cas, moi, j'ai été comédienne aussi dans le passé et ce qui m'a beaucoup servi dans l'écriture, dans le sens où c'est comme si j'improvisais en essayant de pousser, d'aller chercher aussi le plaisir d'écrire en écrivant, une sorte de jouissance quelque part de l'écriture. Dans cette jouissance de l'écriture, effectivement, après il y a un deuxième temps, celui où on se relit et celui où on va gommer des choses de part et d'autre. Enfin, on connaît ça, hein, les auteurs. Et puis de temps en temps, on se fait plaisir aussi et on laisse des passages qui finalement nous correspondent tout simplement. C'est vrai que il y a un petit côté à la fois uppercut, comme on dit aujourd'hui, un petit côté de lâcher prise et de dimension de plaisir qu'il faut après ajuster. Bon, voilà. Mais dans cet ajustement, on reste ce qu'on est, quoi.
J'aurais pu vous le reprocher, cet afflux de langage extrêmement, extrêmement précieux parfois. Là. Il y a des années, j'ai fait une émission avec un homme de théâtre, mais qui était en même temps psychiatre, si je me souviens bien, qui avait au théâtre de l'Atalante monté une pièce sur le coma. Sur le coma, oui. Et il y avait une femme qui était pendant toute la pièce, qui était couchée sur un brancard. Elle ne bougeait presque pas. Et ça, c'était très drôle parce qu'elle ne bougeait pas presque pas. Et on voyait qu'elle était danseuse. Sans bouger. Et là, à un moment donné, cette dame dit une longue phrase. Dit une longue phrase, et je fais remarquer à ce monsieur que je lui dis, mais c'est pas possible, là vous poussez, on est dans le coma, va pas se faire une phrase de 5 lignes. Il me dit détrompé, c'est une phrase de Bernard Noël en plus, citation.
Bernard Noël.
Il me dit détrompez-vous, j'ai vu des gens dans le coma partir sur de longues tirades comme ça, sans aucun problème. Oui.
C'était pas forcément, c'est étrange parce que... On est traversé, enfin moi j'ai été traversée quand j'ai écrit ce texte par beaucoup de choses et notamment effectivement des phrases très longues parce que dans Coma en effet il y a des phrases très longues mais on paru naturelles sans j'en suis assez consciente. Je me suis aussi posé la question en me disant bon Est-ce que c'est pas un peu trop long? Mais au fond, je pense que ça correspond sans doute à une sorte de d'intuition. Tout est dans mon travail. Enfin, je veux dire, je pense que je me laisse complètement prendre à un moment donné par mon sujet. Je suis pas très réflexive. J'écris.
Pourtant, le fil conducteur, vous le suivez parce que c'est l'histoire de Coma.
C'est merveilleux,
l'histoire de Coma. J'ai envie de dire, c'est un enchevêtrement. Puisqu'il y a, oui. Je ne sais pas combien il y a de Coma, il y a deux femmes, elles sont censées être deux femmes, et tout ça est enchevêtré, et il y a des indices que l'une... Non, je ne raconte pas le livre, hein, mais il y a des indices, elles sont dans un train, il y en a une qui trouve un carnet, et puis qui essaye de recréer l'autre. C'est ça ? J'ai compris quelque chose ou pas ?
Écoutez, en fait, l'idée, c'était vraiment de comment dire que ces femmes... Se parlent dans leur propre coma. Chacune, elles sont dans le coma. Et en même temps, il y a un troisième coma qui arrive, finalement, qui est leur coma à toutes les deux. Mais c'est très... Enfin, moi-même, je pense que j'étais dans une sorte de coma éveillé ou d'inconscience totale de ce que j'étais en train d'écrire. Je l'ai écrit à la fois dans des trains, et effectivement, la pièce se passe dans un train, une sorte de train fantôme qui représente, d'un point de vue matériel, au fond, le lieu du coma, même si la pièce démarre à l'hôpital, mais finalement, on se trouve très très rapidement dans ce train. Je l'ai écrit dans des lieux fantomatiques et je me suis laissée complètement traverser par tout ce, à la fois ce que je vivais et les lieux dans lesquels j'étais et l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et je pense que moi-même aujourd'hui, quand je regarde ce texte que j'aime parce que il est très ancré dans mon corps en fait. C'est bizarrement effectivement il n'y a pas le côté organique n'est pas présent dans enfin. Il y a, je pense, quand même quelque chose du corps et de la sensualité, hein, mais peut-être pas de l'organique dont on parlait tout à l'heure. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est très physique, tout ça. Et comme dans le rêve, il n'y a pas vraiment de rationalité.
D'accord. Vous savez ce que Visconti, dans La mort à Venise, c'est ce qu'il a fait.
Oui.
En fin de compte, est-ce qu'il y a un film plus esthétique que Mort à Venise, et pourtant c'est sur le choléra, hein.
Ouais, bien sûr.
Hein, cette destruction. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, le film.
Oui, complètement. Voilà. C'est un des films que j'adore, qui est une vraie fascination aussi. Et les images de mort à Venise sont effectivement hyper troublantes. Mais je pense qu'il y a une recherche du trouble. Mais il y a une recherche du trouble dans ce que j'ai cherché à faire, mais qui se sauve, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement tomber dans des choses beaucoup plus, dark, mais dark profondément, et le corps qui lui aussi se lâche, quoi. Mais au fond, je crois que c'est là où j'essaie de rattraper à chaque fois les choses, même si je pense que c'est quand même à l'intérieur de moi tout ça.
Vous avez commis, hein, c'est comme on commet un crime, revoir Venise pour la première fois.
Oui.
Mais Venise, c'est souvent le thème de l'esthétisme et de la mort. Si vous voyez le Don Juan de... Si vous voyez Amadeus, il y a la mort qui marche sur les canaux, hein, et c'est très beau. Hein. On est toujours dans le beau. Hein.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est justement de naviguer entre les deux. Je pense que trop de beau n'est pas supportable, trop de laideur non plus, et c'est d'être toujours sur ce fil où on pourrait basculer, mais peut-être que justement on touche un, enfin peut-être que le lecteur lui a sa part aussi lorsqu'il prend le livre et qu'il lit et qu'il va peut-être sentir en lui monter le noir ou la lumière, mais effectivement Venise, alors c'est je suis jamais allée à Venise.
Vous n'êtes jamais allée à Venise.
Jamais.
Alors vous êtes deux comme ça. Il y a aussi André Breton qui n'est jamais allé à Venise. Hein.
Alors je.
Vous n'êtes pas la première.
Non, mais j'ai pensé y aller plusieurs reprises, mais non, ça c'est tout. Alors je me suis dit finalement j'irai peut-être avec ma fille. Mais c'était intéressant en tout cas. Bon, c'est un autre sujet, c'est un autre livre, c'est une autre période. Mais c'était intéressant d'écrire sur Venise sans être allée à Venise. Et ça. comme c'est intéressant d'écrire sur le coma sans avoir connu le coma. Au fond, peut-être qu'on est plus libre. Parce que si j'avais été dans le coma, je ne pense pas que j'aurais écrit.
Vous ne l'auriez jamais écrit, peut-être.
Peut-être oui, que peut-être, je l'aurais écrit, mais je n'aurais jamais été le même livre. Peut-être qu'il y aurait eu une incapacité à dépasser quelque chose, au fond. Et,
bon. N'empêche votre histoire dans le coma avec un S, là, vous la tenez. C'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur. C'est-à-dire c'est très cohérent, c'est-à-dire que vous voulez un coma cohérent, très cohérent.
Oui, sans doute. Bon, je l'ai numéroté en plus, hein, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il y a 11 comas. Je crois que, comme une ronde, au fond, il y a de la cohérence dans la ronde de Schnitzler. Enfin, il y a de la cohérence à partir du moment où, effectivement, cette femme, il y a une histoire d'amour qui hante le coma de ces femmes dans ce train hanté par un couple. Je pense qu'en fait, à un moment donné, on comprend que on n'en sortira jamais finalement. Alors, c'est une pirouette peut-être, mais je crois que c'est une manière de terminer aussi un livre.
Vous avez monté une troupe de théâtre, c'est Les Roches Noires, c'est
oui.
ça ? Les Roches Noires, c'est Marguerite Duras ?
C'est Marguerite Duras, alors c'est plusieurs choses en même temps. C'est effectivement Marguerite Duras, puisque dans ma vie familiale, il y a une femme qui malheureusement nous a quittés il y a très peu de temps, en février, Christiane Blot-Labarrère, qui était une éminente spécialiste de Marguerite Duras, qui a écrit, qui a dirigé les Carriers de Lerne sur Duras. Christiane, dans ma famille, bon, Duras était présente. Et puis un jour, mes parents m'ont amené à Trouville, voir les Roches Noires. Et j'ai été frappée par ce lieu parce qu'il réunissait pour moi à la fois mon histoire maternelle, qui était une histoire d'hôtel, le Carlton, le George V, et une histoire du côté de mon père, de château perdu. Bon. Et tout d'un coup, je vois ce bâtiment un peu... comme ça, ce gros paquebot devant la mer. Moi aussi, je suis rentrée dans la grande famille des femmes ou des hommes fascinés par ce lieu. Et j'ai appelé ma compagnie de théâtre Les Roches Noires, du coup.
Vous savez que Marguerite Duras a connu des comas éthyliques, hein ?
Ah, ça m'étonne pas, oui.
Oui, des comas éthyliques étaient sérieux, hein ?
Oui, ça m'étonne pas non plus. Bah, oui, bon, elle a écrit hein, sur l'alcool
oui,
aussi.
Et,
mais je pense que l'alcool... mon personnage d'ailleurs dans Coma boit aussi.
Oui, il picole tous. Hein, voilà. Vous tenez à l'écriture inclusive, au E, auteur et metteur en scène. J'ai vu ça dans votre texte, le E à chaque fois, l'auteur, une chose qui vous préoccupe ou pas ? Vous ne croyez pas que c'est quand même très subalterne actuellement ?
De
mettre un E à auteur.
Alors, je ne supporte pas autrice, ça me donne de l'urticaire.
Auteur tout court.
À un moment donné, il faut faire des compromis aujourd'hui. Alors je pourrais maintenir qu'il n'y ait pas de E. C'est un compromis. Parce que, franchement, tout ça m'agace sérieusement, à vrai dire. Je ne suis pas obsédée par. À la limite, actrice, je veux bien, je préfère comédienne, mais.
Là, il n'y a pas de problème. On va écouter un peu de musique et je vais vous dire ce que j'ai fait de très mal par rapport à votre livre.
Oh, je suis impatiente.
Vous êtes impatiente,
alors.
Je sais.
He's won the very devil fierce to battle. He is a butcher, all the rest are cattle. Though he's a pimping hound, no jail keeps him in. But who will make him bite the dust? It's women, it's useless to resist. No one is free. There's no escape from sexual slavery. He doesn't heed the Bible, sneers at all the laws. As far as he's concerned, he has no flaws. And well aware how women tempt a man, he fends them off as best he can. By light of day, his manners are so lofty. Yet, at night, a woman makes him just a softy. This man discriminates the human race. While he is Loctite in a slut's embrace, his bloody deeds would paint the whole world scarlet.
who dig his grave with her bare hands, a harlot. It's useless to resist, no one is free. There's no escape from sexual slavery. This man believes the Bible and obeys the laws of open shop, Jim Crow and Santa Claus. Refuses oysters when he eats at noon, but later on he'll change his tune. When evening comes, he says, I feel so alright. I'll need someone to calm me down by moonlight. There's just no getting away from it. All men are pigs.
Cathy Barbarian, superbe voix sur Radio Liberté à 89.4. Alors Emmanuel, j'ai fait une très vilaine chose avec vous, je tiens à vous le dire, vous piaffez, hein, vous attendez au pire.
Complètement, ah, là, je tremble.
Oh là là, j'ose à peine vous le dire. Alors effectivement, j'ai eu ce livre que m'a offert Jérôme Martin, marqué, il a 103 ans, il faut le ménager, hein. Et puis je l'ai feuilleté. Et je suis arrivé au milieu, et le milieu m'a vendu un peu la mèche. Parce que il y a deux femmes, Little Italy.
Oui.
Il y a Virginia. Et j'ai tombé en m'apercevant que c'était Virginia Woolf.
Alors, oui.
J'aurais pas dû le faire. Alors, allez-y.
Alors, oui et non.
Non, si je l'ai fait, je sais ce que je dis.
Vous avez bien fait. Écoutez, on a le droit quand même, franchement. Quand j'ai commencé à écrire Coma, j'étais pas, c'était pas Virginia Woolf immédiatement. C'était effectivement Little Italy, Virginia. Bon, j'ai joué avec les noms des États américains. Et puis à la fin, c'est vrai que ça arrivait à la fin. Je sais pas, tout d'un coup, j'ai repensé à ma mère qui effectivement, m'avait offert ce livre, Qui êtes-vous, Virginia Woolf, de Phyllis Rose. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, mon personnage, peut-être que c'est une Virginia Woolf. Pas forcément. Et je me suis dit, bon, je vais faire cette référence, sachant qu'en plus, dans le livre, mon écrivaine, enfin, mon. Un des personnages donc est une écrivaine, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est aussi cette liberté de tout d'un coup se surprendre et comprendre que on avait inconsciemment peut-être déjà ça quelque part dans notre tête, mais que ce n'était pas forcément conscient, et que tout d'un coup, eh bien pourquoi pas, ça pourrait être Virginia Woolf. Moi, alors chacun peut l'interpréter comme l'entend.
C'est ma lecture, hein. Moi c'est ma lecture.
C'est une lecture.
Puisqu'on en est arrivé là, entre vous et moi maintenant, je me suis dit oui, elle est partie comme ça, et à la fin c'est Virginia Woolf qui est censée avoir écrit le texte.
C'est une lecture, c'est une lecture effectivement, mais c'est vrai que ce n'était pas immédiatement mon souhait, et c'était une manière de faire un clin d'œil au fond, mais
on peut dire un peu qui c'est Virginia Woolf, parce que c'est pas sûr que voilà.
Disons que pour moi la référence à Virginia Woolf est enfin comment dire, il y a deux choses vraiment à la fois la folie de cette auteure.
La folie, oui.
La folie suicidaire puisqu'elle se tue. Et aussi
le rapport à l'homme.
Son rapport à la femme, son homosexualité.
Elle est mariée avec un monsieur.
Elle est mariée, oui.
Ça va pas du tout.
Non. Et donc cette attirance qui existe pour la femme m'a aussi j'avais une mère qui était au fond un homme. Je pense que les hommes hantent mes écrits, mais ma mère me hante. Et au fond, je dirais que.
Moi, papa Freud, là.
Non. Je vais m'arrêter immédiatement.
Allez-y.
Mais tout ça pour dire que lorsque je cite, enfin, citer, c'est pas citer, mais lorsque Virginia Woolf rentre dans mon coma, dans les commas du texte. Il y a cette dimension-là. Il y a ce, comment dire, cette ambivalence qui m'a beaucoup marquée moi-même en tant que fille. Alors, et voilà, mais je pourrais parler des heures de Virginia Woolf. Je pas la prétention non plus dans voilà.
Mais votre coma est très, encore une fois est très lucide. Il est sous le joug du langage toujours, parce que vous vous souvenez, vous le savez pertinemment, me dites pas le contraire, comment vous arrivez à Virginia Woolf? Par une analogie, c'est-à-dire qu'il y a, il y a le loup, allez-y.
Oui, c'est-à-dire que, mais c'est ce loup, comment dire,
il y a un homme qui a, c'est ça qui...
Non, enfin, c'est une photo qui enfin, le loup, ah, le loup c'est aussi un peu obsessionnel, mais... tout d'un coup, il y a une photo d'un loup qui envahit mon personnage et qui, tout d'un coup, va dire « Woolf ! Virginia, Woolf !» Et tout d'un coup, c'est la louve anglaise. Et tout d'un coup, c'est comme si, effectivement, le personnage prenait conscience de qui il était. Donc, il y a tout cette chose... de, comment dire, d'association au fond, parce que fascination, association, obsession, bon, ce sont des mots que j'aime et qui me parlent, mais et donc par une sorte d'association, le personnage tout d'un coup pense à Virginia Woolf, comme moi tout d'un coup j'ai pensé aussi à Virginia Woolf qui m'a traversée. Et le personnage dit: ce livre que ma mère m'avait offert lorsque j'étais enfant revient, et là, comme effectivement une prise de conscience de qui elle est. Qui êtes-vous?
C'est une pièce de théâtre?
Oui.
D'accord. Vous allez la jouer ou pas? Ou la faire jouer ou pas?
Alors...
Parce que c'est très précis, c'est très précis. C'est pareil, hein, c'est comme le texte, c'est très précis au niveau des indications scéniques.
C'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai que pour ce texte, j'avais des images de plateau, de mise en scène. Donc, moi, personnellement, je ne me verrais pas mettre en scène ce texte. Je trouve que c'est dommage. En général, je trouve que c'est toujours mieux qu'un metteur en scène s'empare du texte d'un auteur, parce qu'il ajoute son regard à lui, qui vient enrichir le texte de l'auteur qu'il aura choisi de mettre en scène. Aujourd'hui, je ne sais pas très bien qui pourrait mettre en scène ce texte, franchement. J'adorerais évidemment qu'un metteur en scène s'en empare, mais je ne sais pas. Donc on verra. Je me balade avec ce livre, je me balade avec les photos aussi qui font partie de la troisième partie du livre. Jeudi soir prochain, il y a une soirée à la maison des associations du 8e arrondissement où sont invitées des femmes artistes. Nous allons lire avec Sophie Tonneau, qui est en couverture de mon livre, toutes les deux, un extrait de Coma. Voilà, je laisse peut-être...
Je peux en lire un extrait?
Oh, j'en sais.
Vous voulez bien c'est parce que je cherche depuis tout à l'heure. Hein. J'allume mon ordinateur bleu en forme d'aquarium, sur lequel je travaille depuis des mois, et en tapant mon prénom ce soir, je pense à cette image d'un loup que j'ai vu chez une amie. Un loup au regard incroyable, jeté sur une photo glacée où l'animal semble avoir peur. Et par ce jeu de l'esprit que j'aime tant, je tape « Wolf » en ajoutant un « O ». Virginia Woolf, la louve anglaise, c'est vrai. Voilà. Donc, je réitère, c'est un coma très, très lucide, qui est toujours dominé par une chose, par le langage.
C'est vrai.
Tout, hein?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que... il y a une comment dire, une distance avec le coma, évidemment. Mais c'est intéressant d'entendre ça, parce que des fois j'ai l'impression de l'inverse. donc c'est drôle. Voilà.
Ce qu'on va faire, on va réécouter quelque chose et après tous les deux on va parler d'impudeur. Ça vous va ?
Parfaitement.
Comme ça, on passera à la deuxième partie.
D'accord. Hein ?
qu'elle est donc dedans la plaine, ce grand bruit qui vient jusqu'à nous. On dirait un bruit de chaîne que l'on traîne, que l'on traîne, que l'on traîne sur des cailloux. C'est la grande liste crue qui passe, c'est la grande liste crue qui mangera. Donc sur la rivière, ce grand bruit qui vient jusqu'ici, on dirait un bruit de pierre que l'on jette, que l'on jette, que l'on jette dedans un puits. C'est le grand lustre cru qui passe, c'est la grande liste crue qui mangera. Tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. L'ange lui sonne sur Valanche, un pigeon tombe du clocher. Quel est donc ce bruit de branche que l'on traîne, que l'on traîne, que l'on traîne sur le plancher? C'est le grand lustre cru qui passe, et c'est moi qu'il vient chercher. Moi, parce que ce soir je ne dors pas.
Le grand lustre cru, la voix de Catherine Barbarian, superbe. On est toujours avec Emmanuel Grivelet-Saunier pour Coma, Un parfum dans la nuit, Les beaux endormis, ce sont des photos aux éditions de l'Écarlate. On va parler de l'impudeur, ça. Vous voulez bien, puisque c'est écrit. Bon, d'accord. L'homme dont j'évoque le souvenir dans les textes qui suivent était impuissant. Une maladie et un ravage chez un homme dont l'être et la beauté physique étaient redoutables. Lorsque nous sommes devenus amants, il retrouvera une partie de ses forces, fut-elle fugace. Une puissance périodique comme les règles d'une femme matinale, comme les hommes s'émeuvent à leur réveil. Mais nous ne dormions pas ensemble, pas assez souvent pour qu'un quotidien maintienne cette étincelle de vie lorsqu'elle reprenait ses droits sur sa maladie. L'aura-t-il supporté? Je l'ai aimé dans la douleur de son corps. Lorsque nous faisions l'amour, je caressais son sexe mort pendant des heures. Il y avait entre nous un désir absolu qui ne serait jamais assouvi. Il ne jouerait jamais en moi. Notre alchimie sexuelle s'épanouissait à côté de ce qu'il ne pouvait pas exprimer physiquement. Je m'accrochais à ce sexe suspendu qui ne demandait plus rien et je m'en foutais parce que j'adorais sa douceur. Je le prenais entre mes lèvres, contre mon visage. Il me calmait par sa légèreté, sa sensualité était d'une telle puissance, bien plus intense que celle que son sexe aurait pu imposer au mien. J'en saute là. Il a plongé dans le coma. Il ne s'est jamais plus réveillé. Ce coma qui avait endormi une partie de son corps 10 ans auparavant, ce coma que son sexe aura épousé et qui aura scellé notre rencontre. Voilà. C'est terrible. On va revenir à la première phrase que je vous ai dit. C'est très agréable à lire, mais la situation est terrible.
Alors, c'est émouvant pour moi de l'entendre lu par un homme, d'une part. Merci.
Oui,
c'est terrible. C'est terrible, mais c'est... Comment dire qu'est-ce qui est terrible? L'impuissance, c'est terrible. Aimer un homme impuissant, est-ce que c'est si terrible que ça?
Alors, c'est déjà terrible d'oser le dire par écrit. De le révéler.
Oui, mais encore une fois, alors il y a un film qui m'a marqué lorsque je l'ai vu il y a déjà de nombreuses années, qui est Le Bel Antonio de Mauro Bolognini.
Magnifique, avec
Mastroianni, qui est Marcello Mastroianni. Ah, l'homme qui a fait
stupendo, lui est stupendo.
Fantasmer toutes, non, pas toutes, mais beaucoup de femmes, on pourra dire ça comme ça, qui tout d'un coup interprète ce personnage impuissant et dans une société...
Et c'est en Sicile, non ?
Oui, c'est en Sicile. J'ai un doute sur le... Oui. Mais enfin bon, c'est pas dans l'Italie facile non, à une époque.
C'est dans l'Italie vraiment masculine.
Oui, dans l'Italie, voilà. Ça c'est sûr. Dans l'Italie, avec un grand I de ce point de vue-là, avec Claudia Cardinal, Mastroianni, qui se marie avec cette femme qu'il aime, mais qu'il ne peut pas honorer, et avec tout ce que ça génère au niveau de la société, comme honte, déshonneur, etc., etc. Il faut absolument voir ce film. Alors, effectivement, je le cite parce que, au fond, c'est peut-être courageux d'en parler courageux, je ne sais pas si c'est courageux à vrai dire, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est aussi de dire que on peut aimer et faire l'amour de plein de manières différentes, que aimer un homme impuissant, c'est aussi lui redonner une forme de vie, et c'est aussi ça, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut peut-être désacraliser un peu.
Je vous avais dit qu'on parlerait de Marguerite Duras et de la douleur.
Oui.
Vous l'avez en tête, la douleur, ou pas ?
Oui, je l'ai en
Alors,
tête.
Je
oui,
résume pas, très, très oui. rapidement.
Oui,
hein. Elle vit avec Robert Antelme, qui est un intellectuel. Robert Antelme est pris par la Gestapo. Il est déporté. Les déportés commencent à revenir. Les déportés commencent à revenir. Ils reviennent tous et Marguerite ne voit pas Robert revenir. Et là, elle va tenter des démarches, y compris à côté d'un officier nazi. Alors, est-ce qu'elle a couché avec ou elle a torturé ? On ne saura jamais rien. Nonobstant, Robert va finir par revenir. Et là, on arrive dans le cadre de l'impudeur. Elle dit, Robert revient, il pèse 20 kilos, il chie vert, c'est plus un homme, etc. etc. Voilà. Et entre-temps, elle qui est pleine de vigueur, elle est amoureuse. D'Adonis Mascolo, qui était un ami de Robert Antelme. Oui, là. Oui. Elle est amoureuse, et puis ils font ce que les amants doivent faire, et Robert est venu. Ça c'est déjà une forme d'avouer ça, c'est déjà très difficile. Déjà. Et là, elle a une phrase terrible. Ça, en tant que femme, vous allez me dire ce que vous en pensez, prenez vos responsabilités. Elle dit, dans le texte, elle dit de toute façon, elle dit, alors qu'elle est avec Adonis Mascolo, jamais je ne trouverai un homme plus intelligent que Robert. C'est-à-dire qu'elle s'est mise avec ce jeune homme, cet homme jeune, qui est Denis Mascolo, qui a beaucoup fait pendant la guerre d'Algérie d'ailleurs. Mmh. Voilà. Et elle dit, ben non, l'autre est plus intelligent. C'est terrible, non ? Ça, c'est Marguerite Duras. Hein.
Oui, c'est terrible. Maintenant, c'est la vérité.
Mais
moi, en tant que femme, qu'est-ce que je veux dire on aime un être pour son esprit et son corps. On aime un être pour son esprit ou on aime un être pour son corps. Quand on aime les deux, je crois profondément que ça n'arrive pas si souvent. Et qu'à partir de ce moment-là, il y restera à une place particulière.
Vous croyez pas que prendre un jeune amant et dire de toute façon celui avec qui c'est fini, il est plus intelligent que toi, c'est quand même cruel.
Mais on est cruel.
Ah d'accord, non. Petite parenthèse, il y a un très très beau livre à lire sur la déportation, c'est L'espèce humaine de Robert Antelme. Oui. C'est un chef-d'œuvre.
Une cruauté. Je crois que ça a été mis en scène récemment, d'ailleurs, ou l'année dernière.
De temps en temps, c'est repris. Oui, effectivement, de temps en temps, c'est repris.
Et je savais effectivement qu'on parlerait de la douleur, et le début du texte, parce que j'ai relu le début du texte avant-hier, et Duras dit qu'elle ne se souvient pas très bien, comment, quoi, quand elle a écrit ce journal. Et c'était très frappant de lire ça, parce qu'effectivement, alors ça me fait penser au coma de l'auteur, pour revenir au coma, où tout d'un coup, quand on On écrit un texte, au moment où on l'écrit, on ne sait pas ce qui va le devenir.
Mais Emmanuel, là on rentre quand même dans l'arbitraire, parce qu'elle parle de l'autre, alors c'est sans lui demander son avis. C'est terrifiant. Tout à l'heure, on parlait de façon plus prosaïque de Jean-Pierre Adams, mon footballeur, là. Pendant qu'il est dans le coma, que sa femme le maintient dans le coma pendant 40 ans, elle lui demande pas son avis. Il y a un côté arbitraire, là.
C'est-à-dire, vous pensez que d'écrire sur l'autre, oui.
Oui, bien sûr, mais oui. Il y a toujours un côté arbitraire. Il y a toujours un côté arbitraire. Mais là, c'est quand même grave. Là, c'est quand
Moi,
même
j'ai... plus... Oui. Oui, c'est vrai que c'est grave. Parce que on sait de qui on parle. Moi, je prends moins de risques quand même lorsque j'écris sur l'autre, parce qu'on ne sait pas forcément de qui je parle. C'est peut-être... Il y a un danger, bien sûr qu'il y a un danger, parce qu'on peut la cruauté dont on parlait tout à l'heure, on peut dire, éclabousser la personne dont on parle, ses proches, on peut vraiment être détruire, quoi, au fond.
Mais c'est impudeur, c'est le mot que j'ai employé, n'est pas du tout moral chez moi, mais
oui,
pas,
oui.
Du tout, hein, pas du tout, hein. Je crois même que c'est la littérature, c'est comme ça. Lorsque Nora Joyce écrit les lettres à James Joyce, ou des scènes de masturbation totale, c'est absolument prodigieux. Voilà.
En tous les cas, il y a quelque chose je crois que quand on décide de publier un texte qui pourrait se dire, oh là là, mais effectivement, il y a une forme d'impudeur, ou bien c'est... je pense qu'il y a une énergie... Enfin, comment dire, ce qu'on a à dire est plus important que le reste, au fond. Et là, moi, un parfum dans la nuit... J'avais envie de parler de l'impuissance, et j'avais envie de dire, voilà, on peut... Enfin, ça paraît très, très, très simple de dire ça comme ça, mais j'avais envie de parler de l'impuissance. J'avais envie je pense que j'aime les hommes, vraiment. Et je n'ai pas peur du corps. Je crois que j'ai vraiment pas peur du corps. Je pense que... et le corps abîmé me fascine aussi. Je n'aime pas les êtres trop beaux. Je peux aimer les embellir, mais au fond, j'aime, voilà. Et du coup, je me suis exprimée dans ce livre, en tout cas dans Un parfum dans la nuit, de ce côté-là. Après, ce sont des textes. Donc, Un parfum dans la nuit, c'est de la poésie. Ce sont des textes douloureux qui parlent du manque, qui parlent de l'obsession de l'autre, qui parlent des fantasmes aussi, en demi-mot peut-être.
Bon, on va finir par les photos.
Oui.
On va écouter un peu de musique, on va finir par les photos, puis on va encore s'en dire plein, hein,
des choses
sur Radio Libertaire au 01 43 71 89 40. Et merci Monique.
When your ship had come in from Burma, I was 16, my God, just a kid. And you asked me to come and stay with you. You take care of me good if I did. When I asked what you did for a living, and you swore just as I'm standing here, that your job had to do with the railroad, not with sailing, you made that clear. You talked a lie, Johnny, nothing was true, Johnny. You tricked me good, Johnny, from that first day. I hate you so, Johnny, how you stand. Take that pipe out of your mouth, you dog. Soda bad, Johnny. Though you're rotten, I know. Soda bad, Johnny. God, I love you so. Soda bad, Johnny.
At first every day seemed like Sunday, till I moved in with you day and night. But just after 2 weeks, it seemed as if there was nothing I did that was right. Flowing in and out of the Panchab, the river goes out to the sea. When I look at myself in the mirror, I look 40 years old to me. You didn't want love, Johnny, you wanted cash, Johnny. But I could see, Johnny, only your lips. You asked for everything, Johnny, I gave still more, Johnny. Take that pipe out of your mouth, you dog. Surabaya, Johnny, thought to ask you how you happened to get such a name. But along the coast there are places where you've earned yourself quite a fame. And one day from a sixpenny flop house, with the sea thunder filling my ears, you will go without even telling me to a ship docked at one of the piers. You've got no heart, Johnny, you're just a louse, Johnny. But if you're leaving, Johnny, just tell me why. I love you so, Johnny, from that first day, Johnny. Take that pipe out of your mouth, you dog. Surabaya, Johnny, rotten, I know. Surabaya, Johnny, God, I love you so. Surabaya, Johnny, why can't I let you go? You've got no heart, Johnny.
Eh ben, une musique de Kurt Weill, et puis toujours la voix de Cathy Barbarian sur Radio Libertaire au 01 43 71 89 40. Ben, toujours avec Emmanuel Grivelet-Saunier pour Coma avec un S, suivi dans Un parfum dans la nuit et Les beaux endormis aux éditions de l'Écarlate. Ben, avant qu'on y revienne aux photos, moi j'ai une petite chose à dire, une petite histoire à raconter. Il y a une vingtaine d'années, 30, oui à peu près, Libération avait consacré, ce qui est rare, tout un cahier aux poèmes de Houellebecq. Les poèmes de Houellebecq sont, excusez-moi le terme, sont une véritable merde, mais c'est pas une raison pour... Et puis c'est très rare qu'un journal arrive à consacrer Houellebecq à une dérive comme ça, qui vient de très 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 loin, qui est une dérive pas très sympathique. Et il y a quelque temps, il a, avec notre cher philosophe, j'ai perdu le nom, voilà, il nous a fait un cahier, où ses propos qui étaient légèrement racistes il y a quelque temps, ben, sont devenus complètement avec Michel Onfray, sont devenus complètement ouvertement racistes. Il y a une confusion entre l'arabe et puis l'islamiste, et ça devient absolument dangereux et puant. Et là, il y a eu Libération à reconsacré 4 pages à la dérive de Michel Houellebecq, tout simplement parce que cet abruti, il a fait un film pornographique, il s'est fait plus ou moins escroquer par les cinéastes, il veut leur faire un procès, et ça, etc. Mais en fin de compte, heureusement, il serait temps comme ça, que Libération commence à s'apercevoir que c'est un type extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux, et le plus fou, c'est qu'il a fallu avoir le prix Nobel de littérature cette année, et quand on pense que l'écrivain français le plus lu, c'est Houellebecq, qui manque d'avoir le prix Nobel de littérature, ça fait froid dans le dos. Voilà. Voilà, et avec des positions sur l'avortement, sur des choses comme ça, qui sont pas très nettes. Bon, c'est une parenthèse que je veux.
Nous avons été sauvés par Annie Ernaux.
Oui, Annie Ernaux a sauvé l'antithèse. Annie Ernaux,
oui,
et l'antithèse. Voilà. Mais si vous pouvez retrouver l'entretien qu'il a eu avec Michel Onfray, il y a à peu près 2 mois de ça, c'est catastrophique. C'est idéologiquement très dangereux et catastrophique. Et oui, les Libérations commencent à avoir une petite réaction. Il serait peut-être temps sur Radio Libertaire 89.4. Voilà qui est dit. Dernière partie, c'est Les Beaux Endormis ou La Douceur de la Métamorphose. Série photo, alors c'est pareil, c'est encore très gay. Voilà. J'ai photographié la mort et je le regardais longuement, jusqu'à l'aimer, jusqu'à la posséder, jusqu'à ne plus pouvoir m'en passer. Avant de vous donner la parole sur ces photos et parler de Sophie Cal, c'est ça, vous voulez?
On va le faire.
Il y a un personnage qui devrait vous intéresser dans un livre de Pierre Macorlan, publié en 1924, qui est le Quai des Brumes. Et dans le Quai des Brumes, il y a un personnage qui est un peintre allemand, et partout il met son chevalet, c'est qu'il y a un mort à proximité. Et c'est tellement il sent la mort, ça fonctionne tellement bien que la police va faire de lui un peintre légiste.
Ah, c'est...
Voilà. Donc voilà, ça existe dans le livre et c'est repris dans le film avec le Vigan dans le rôle du peintre légiste. Alors, vous avez photographié?
Oui, alors ça me parle ce que vous racontez, parce que moi, je l'ai côtoyé, la mort. Plein de gens l'ont côtoyé, la mort. Mais il y a eu un moment où j'ai eu l'impression qu'elle rentrait en moi. Alors que... et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je change de métier, que je fasse autre chose, que je fasse un métier proche de la mort. Il y a une sorte de choses sensorielles comme ça. Alors, effectivement, dans ma vie, j'ai côtoyé la mort dans le sens où je n'ai pas peur de voir la mort. J'ai, comme je l'expliquais tout à l'heure, photographié des personnes que j'ai perdues. Et plus je l'ai fait, et plus, quelque part, j'exorcisais sans doute quelque chose, ou bien je faisais entrer dans mon propre corps quelque chose, l'odeur de la mort, ou bon, voilà. Et l'histoire des Beaux Endormis est un peu accidentelle au démarrage. Après, ça se recoupe avec ce que je viens de raconter. Au démarrage, je faisais des photos d'amis comédiens, donc vraiment rien à voir du tout. Et un jour, je demande à une de mes amies de poser devant ma porte d'appartement, au-dessus duquel il y a un petit puits de lumière. Et je lui dis, écoute, regarde en haut, ferme les yeux, on va essayer quelque chose. Et puis, la photo, au final, me plaît et me parle. Et je me dis, tiens, c'est étrange, on dirait justement qu'elle est dans une sorte de coma, mais de coma en même temps mis en scène, là encore, un peu sophistiqué, en effet. Mmh. Et j'ai continué à faire des photos. À chaque fois que je photographiais quelqu'un, je dis, excuse-moi, tu veux bien venir, on va faire une petite photo devant mon palier de porte. Et puis, progressivement, j'en ai eu plusieurs. Et là, j'ai commencé à prendre du recul. Et des choses se sont rassemblées, au fond, entre mes propres morts et puis les personnes que je photographiais. Il y a une sorte d'association qui s'est faite. Association aussi avec... Aujourd'hui, dans ce livre, les deux autres parties dont on vient de parler, Coma et Un parfum dans la nuit, qui parlent aussi de disparition et qui font qu'il y a finalement ce triptyque qui existe dans ce livre. Et là, je voudrais dire un mot concernant Jérôme Martin aussi, qui lorsque je lui ai proposé mon premier texte Coma, me dit, écoute, ça m'intéresse, mais t'as pas un autre texte? Alors je lui dis oui, mm-hmm. oui. Donc je lui donne à lire Un parfum dans la nuit. Il me dit, écoute, ça m'intéresse aussi, et je pense qu'on peut faire quelque chose avec ces deux textes, mais est-ce que tu as encore autre chose? Et alors là, je lui dis, écoute, je vais te proposer une photo pour la couverture du livre, mais en même temps, il y en a d'autres. Mm-hmm. Et donc, lui a eu, avant moi, cette vision de, de l'ensemble. Je parle de ça parce que c'est vrai que ça a été fondateur pour ce livre, ce qui s'est passé avec, avec Jérôme lors de nos échanges auteur-éditeur, n'est-ce pas? Et pour revenir aux photos, en effet, j'ai fait après un travail de peut-être de prise de conscience, là encore, parce que et de rassemblement de ces photos pour proposer ensuite à mes modèles de parler à leur tour, enfin, de me raconter leur disparue, de me raconter des choses sur leur rapport à la mort. Et du coup, j'ai écrit des petites légendes à chaque fois qui accompagnent chacune des 12 photos. 13 avec la couverture.
Pour venir dans votre sens, et une petite parenthèse vite fait, j'ai le fils d'un ami qui, vers 14 ans, l'âge de l'enfance, hein, a décidé de travailler sur les morts. D'être, qu'on appelle, Thanatos, Thanatopracteur, comme ça. Et puis, lorsqu'il est arrivé, il était au lycée, lorsqu'on lui a... Vous savez, il y a des stages à faire en... ils ont,
en
les
troisième.
Enfants, en troisième, ouais. 15 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi quasiment un EHPAD ou un mouroir pour faire son stage. Et après, il s'est inscrit, il est devenu, je crois, il est devenu voilà, Thanatopracteur. Donc, ça, c'est un truc qui vient de l'enfance, hein, il y a un garçon extrêmement vivant, extrêmement, voilà, fasciné par ça.
Mais je crois que...
Sans traumatisme. Gay.
Encore une fois, là, c'est pas parce que on a vécu des trucs terribles que on se dirige... Enfin, je veux dire, encore une fois, j'ai jamais été dans le coma et j'ai écrit... sur le coma, j'ai jamais été à Venise et j'ai écrit sur Venise. On peut juste effectivement être traversé, peut-être que dans une vie antérieure, sont passées des choses qui ont fait que jaillit à l'intérieur de cet enfant ou de cet adolescent une vocation surprenante. Effectivement, c'est toujours surtout avec un jeune de cet âge-là. Mais effectivement, c'est vrai que on peut se... Enfin, moi, j'ai pas 14 ans, j'en ai bientôt 50.
C'est pas vrai.
C'est malheureux, mais c'est bien.
C'est quel aveu,
mais je pense qu'à 14 ans, j'avais pas le même, du tout le même rapport, enfin, pour le coup, à la mort. Je pense qu'elle me faisait peur, comme pour, surtout quand on est jeune. Enfin bon, quoi qu'il en soit. Mais je pense que dans mon histoire, c'est vraiment la construction d'une vie et des événements de la vie. Pour revenir... Alors, Sophie Kahl. Je pense à Sophie Kahl parce que moi, Sophie Kahl, je l'ai découverte à travers un livre qui s'appelle « Prenez soin de vous », qui a été publié en 2007, c'est au moment de la biennale, de la 52e biennale de Venise, parce qu'elle a exposé à cette occasion-là les photos de ce livre. Ce livre, alors, je vais vous lire... le début du livre, qui, en fait, Sophie Kahl reçoit un mail de rupture à Berlin, qui se termine donc par « Prenez soin de vous ». Et elle écrit « J'ai reçu un mail de rupture, je n'ai pas su répondre. C'était comme s'il ne m'était pas destiné. Il se terminait par les mots « Prenez soin de vous ». J'ai pris cette recommandation au pied de la lettre. J'ai demandé à 107 femmes, dont une à plume et deux en bois, choisies pour leur métier, leur talent, d'interpréter la lettre sous un angle professionnel. L'analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter, la disséquer, l'épuiser, comprendre pour moi, parler à ma place, une façon de prendre le temps de rompre, à mon rythme, prendre soin de moi. » Sophie Kahl, elle manipule l'intime, elle mêle son intime à la fiction, et c'est vrai que sa démarche me parle. Dans les photos, il y a effectivement une manière de transposer pour moi ma, mon histoire de la disparition et des personnes que j'ai pu perdre. Je ne sais pas si je serais capable de mettre un parfum dans la nuit en photo, mais c'est drôle, je ne me suis jamais posé la question jusqu'à cet instant. J'y penserai. Mais voilà, donc j'ai une démarche aussi qui part de l'intime et de mon intime, c'est vrai, et que j'essaie de transposer dans mes textes et dans ces photos aussi.
Emmanuel, le temps a passé. Ah, ouais, oui. Le temps a passé, il va falloir arrêter cette émission, là. En deux mots. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai parlé de votre livre avec quelqu'un de bien. Et j'ai dit, mais et si tout cela n'était que fiction? Vous me laissez finir, hein? Et vous résolvez le problème en deux phrases, pas plus. Hein. C'était fiction, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun rapport avec la mort, aucun rapport avec tout ça, et qu'elle est entièrement dans l'imaginaire. Et y compris pour la deuxième partie où on a parlé de l'impudeur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Que du bien.
C'est vrai. Très bien, alors c'est parfait. Vous pouvez partir, vous reviendrez quand. D'accord, ok. Alors, c'était un plaisir.
Pour moi aussi.
C'était un plaisir. Alors, Emmanuel Grivolet-Saunier, coma avec un S, suivi de Un parfum dans la nuit et Les beaux endormis, audition de l'écarlate. Et bravo à monsieur Jérôme Martin, c'est son anniversaire.
Oui, c'est son anniversaire.
135
Jérôme.
Ans. 135. Merci à Monique aussi, rien n'est
Merci
possible.
Merci beaucoup, Monique.
Voilà.
Laisse-la pleuvoir, cette tristesse diluvienne. Ces nuages noirs d'une histoire ancienne. Laisse-moi la voir, cette blessure vaine, cette peur qui n'est pas la tienne. Laisse-la tonner, couler, car après l'orage, les routes fument. On dirait comme une amertume qui s'évapore là dans l'espace. Chaque chose est à sa place. Regarde-moi en transparence. Après la pluie, quel beau silence. En dessous des avions qui passent. Chaque chose est à sa place. Vider la mémoire de cette colère que tu traînes. Mauvais nénuphar, arracher la graine. Ouvre-la ce soir, cette serrure pleine, cette peur de me décevoir. Laisse-les claquer, couler, car après l'orage, les routes fument. On dirait comme une amertume qui s'évapore là dans l'espace. Chaque chose est à sa place. Regarde-moi en transparence. Après la pluie, quel beau silence. En dessous des avions qui passent. Chaque chose est à sa place. Chaque chose est à sa place. Chaque chose est à sa place. Regarde-moi. Je te tends des petits miroirs, faits de mots, faits de mon histoire. Et le temps paraît court. Quelquefois on dirait de l'amour. C'est pratique les petits miroirs sous les verres, dans les pianos bars. Un peu tout ce qui brille. Est-ce que tu peux les traverser et venir voir de mon côté, venir voir si tu m'aimes. Tu peux les traverser et venir voir de mon côté, venir voir si tu m'aimes ou toi-même. De mon côté, venir voir si tu m'aimes ou toi-même. On se tend des petits miroirs où s'inverse le dérisoire. Posons-les face à face, essayons de briser.
Voir un nouveau voyage, creuser un chemin de halage, saisir le cheval par l'écrin, sortir l'acier de son écrin, au moins planter le premier bout, un matin se lever debout, remonter le fleuve à l'harpie, je veux me saouler à l'utopie. On a gardé pour nos vieux jours le vin de garde de l'amour, le désir, un vrai tourboyau qui vous fait le cœur sur la peau, et comme des gros bleus qui fâchent sur cette peau du vin qui tâche, et en dedans plein d'eau de vie, je veux me saouler à l'utopie. Dans les raisons de mes colères, je veux enlever la misère, mettre au quotidien des clodos, un toit, un coin pour faire dodo. Elle est chaud comme l'astracan sur le trottoir nu des croquants. Je veux dérouler des tapis, je veux me saouler à l'utopie. Dans mes chansons pour les marmots, je veux réparer tous les mots. Je veux les prendre au pied de leurs lettres, écrire pour ouvrir des fenêtres, et qu'ils me mènent en bateau livre, que je pisse de mes yeux ivres des pleurs d'amour sur mes copies. Je veux me saouler à l'utopie. Mettre le pavé sur la table, inventer l'inimaginable, déclarer la paix de tous bords, jeter l'injustice à tribord. Pour choper ces grigous, du gros sel sur leur queue de pie, je veux me saouler à l'utopie. Entrevoir un nouveau voyage, creuser un chemin de halage, saisir le cheval par l'écrin, sortir l'acier de son écrin, au moins planter le premier bout, un matin se lever debout, remonter le fleuve à l'harpie, je vais me saouler à l'utopie. Je veux me saouler à l'utopie. tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule. Quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue. On se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes. On touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort, on meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans, ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio, on est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien, sans rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans, tout est foutu, alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans. J'ai peur des rues, des quais du sang, des croix, de l'eau, du feu, des becs, d'un printemps fragile et cassant, comme les pattes d'un insecte. J'ai peur de moi, de vous, j'ai peur des yeux terribles des enfants, du ciel, des fleurs, du jour, de l'heure, d'aimer, de vieillir, et du vent. J'ai peur de l'aile des oiseaux, du noir, des silences et des cris. J'ai peur des chiens, j'ai peur des mots et de l'ongle qui les écrit. J'ai peur des notes qui se chantent, j'ai peur des sourires qui se pleurent, du loup qui hurle dans mon ventre. Quand on parle de lui, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur du cœur, des pleurs de tout, la trouille des fois, la pétoche, les dents qui claquent et les genoux qui tremblent dans le fond des poches. J'ai peur de deux et deux font quatre, de n'importe quand, n'importe où, de la maladie délicate qui plante ses crocs sur tes joues. J'ai peur du souvenir des voix tremblant dans les magnétophones. J'ai peur de l'ombre qui convoie des poignées de feu vers l'automne. J'ai peur des généraux du froid qui foudroient les pis sur les champs et de l'orchestre des Norrois sur la barque des pauvres gens. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de tout seul et d'ensemble et de l'archer du violoncelle. J'ai peur de là-haut dans tes jambes et d'une étoile qui ruisselle. J'ai peur de l'âge qui t'épaisse, de la pointe de son canif, le manteau bleu de la jeunesse, la chair et les baisers à vif. J'ai peur d'une pipe qui fume, j'ai peur de ta peur dans ma main, l'oiseau lyre et le poisson lune, l'éclair pierre du chemin. J'ai peur de l'acier qui hérisse, le mur des lendemains qui chante, du ventre lisse où je me hisse et du drap glacé où je rentre. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur de pousser la barrière de la maison des églantines, où le souvenir de ma mère berce sans cesse un berceau vide. J'ai peur du silence des feuilles qui prophétise le terreau, la nuit ouverte comme un œil retourné au fond du cerveau. J'ai peur de l'odeur du marais palpitante dans l'onde douce. J'ai peur de l'aube qui paraît et de mille autres qui la poussent. J'ai peur de tout ce que je serre inutilement dans mes bras, face à l'horloge nécessaire du temps qui me les reprendra. J'ai peur.
C'est qu'un gros feignant, un gros pacha, un charlatan. Quand on l'appelle, chat répond pas, n'en fait qu'à sa tête à chaque fois. Chat s'en fout du camp, dira-t-on, rentre quand il veut à la maison. Chat fait du bien quand il ronronne, c'est trop chou quand chat s'abandonne. Chat, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, non même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat fait le gros dos quand il a peur du chien que chat porte pas dans son cœur. Les aboiements, chat n'aime pas trop. Les griffes, chat les sort quand il faut. Chat ramène toujours des trophées. Oiseau souris chassé, chassé. Quand chat va pas, qu'il est fâché. Chat donne pas envie de s'effronter. Chat, oh c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat pose ses pattes sur mon clavier. Pour écrire chat, c'est pas gagné. Mais pour chaparder, s'échapper, c'est chat le plus fort du quartier. Chat d'or au chaud sur le capot de mon char à nous dans mon chapeau. Quand chat s'endort sur mes genoux, chat me fait comme du bonheur partout. Oh chat, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, non même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Tout ce qu'il veut de son humain, car c'est moi qui lui appartiens. C'est chat qui choisit, c'est son choix. Ça va, il me laisse habiter là, dans ce monde où les souris dansent. Chat se fout bien de tout ce qu'on pense. Qu'est-ce qui nous attache? cache lui et moi. Je sais pas mais je donne ma langue. Jean, oh c'est qui Jean? C'est mon matou qui vit chez moi. Jean, oh même si parfois, non Damien où je vis chez mon chat. Jean, oh c'est qui Jean? C'est mon matou qui vit chez moi. Jean, oh même si parfois, non Damien où je vis chez mon chat. Nom d'Amia où je vis chez mon chat. Nom d'Amia où je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et vice versa. Pardon, Versa. Versa, oui, Versa.
Miaou. Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, on est lundi 1er janvier, il est 16h, donc Trou Noir va vous proposer une rediffusion. Bien sûr, on n'a pas d'invité en direct aujourd'hui et toute l'équipe de Trou Noir ainsi que toute l'équipe de la radio vous souhaite la meilleure des années possibles, même si c'est pas facile. Eh bien, je vous souhaite une bonne écoute pour cette rediffusion de Trou Noir. Nous réécouterons l'émission qui était consacrée à Gaza avec le réalisateur du film Yalla Gaza. Bonne écoute. Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir. Je précise que nous avons enregistré cette émission le vendredi 10 novembre, alors que nous la diffusions le 13.
Bonjour à toutes et à tous, Nicolas au micro de Trou Noir avec Serge évidemment ma compagnie.
Bonjour.
Et nous recevons aujourd'hui Roland Nurier, bonjour Roland, pour son film Yalla Gaza.
Bonjour.
Donc nous recevons aujourd'hui Roland Nurier pour son film Yalla Gaza. Ce film tourné entre 2020 et 2021 à Gaza et en Europe et dans les salles de cinéma françaises depuis le mercredi 8 novembre. Bien avant cela, de nombreuses avant-premières se sont déroulées aux quatre coins de la France. Si on pouvait supposer qu'un tel film ne manquerait pas de susciter des réactions, comme tout regard qui s'intéresse au conflit israélo-palestinien, il était difficile d'imaginer que le film sortirait dans un contexte aussi brûlant, polarisé. Les réactions des pouvoirs institutionnels, avec leur injonction à choisir son camp, ne se sont pas fait attendre et plusieurs salles ont été incitées à déprogrammer le film. Point d'orgue, Mariam Aboudaka, représentante Gazaoui du FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, invitée à accompagner le film en France, a été arrêtée à deux reprises et est aujourd'hui encore retenue dans l'attente d'une expulsion. Nous en reparlerons. Après les attaques du 7 octobre dernier, menées par le Hamas et d'autres groupes de la résistance palestinienne, l'État israélien réclame vengeance et a promis d'éradiquer le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, comme on déciderait d'éradiquer une mauvaise herbe, comme si Gaza se résumait au seul Hamas, comme si on pouvait faire disparaître sous un tapis de bombes la révolte et l'amertume de plus de 2 millions de personnes enfermées depuis 17 ans dans un ghetto de 340 km². Comme si, comme l'écrivait notre compagnon Pierre Sommermeyer dans le dernier numéro du Monde Libertaire, « Comme pour l'Ukraine, croire qu'une guerre, quelle que soit sa forme, va solutionner un problème, quel qu'il soit, c'est refuser de se rendre compte que le problème, c'est la guerre. Chaque jour, une